Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Jean Moulin incarne aujourd'hui le visage de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son héroïsme lui a permis d'entrer au Panthéon en 1964. Le discours du ministre des Affaires culturelles André Malraux avec son célèbre « Entre ici, Jean Moulin » est devenu historique. Mais il y a encore des zones d'ombre autour de l'arrestation de cet homme profondément patriote, torturé par l'un des grands criminels de guerre nazis, Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon. C'est le destin de Jean Moulin aux prises avec les heures les plus sombres de l'histoire que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Jean Moulin, héros de la résistance. Épisode 1. Le plus jeune préfet de France. Nous sommes à Caluire, tout près de Lyon, le 21 juin 1943. Il est environ 13h30. Cinq hommes convergent vers la maison du docteur Frédéric Dugoujon. Ils ne viennent pas à sa consultation. Ils vont tenir une réunion pour choisir le nouveau chef de l'armée secrète après l'arrestation du général de Lestrin. Celui-ci, qu'on surnomme Vidal, s'est fait arrêter à Paris par la Gestapo une douzaine de jours plus tôt. Il faut agir vite pour garder de la cohésion dans le mouvement de résistance, comme le veulent le général de Gaulle et l'homme qu'il a envoyé en France pour fédérer les résistants. Cet homme, c'est Jean Moulin, ou Max, ou Rex, selon les noms de code qu'il emploie. Les cinq résistants se retrouvent dans une salle au premier étage de la maison du médecin. Ils attendent dans une atmosphère tendue. Les autres résistants attendus sont en retard. Trois quarts d'heure plus tard, trois hommes se présentent dans la maison du médecin. La gouvernante se trompe et les oriente vers la salle d'attente de la consultation. Parmi ces trois hommes, il y a Max. Environ un quart d'heure plus tard, avant 15 heures, deux Citroën pilent sur la place Castellane devant la maison du médecin. Des SS en costume sombre en descendent. Ils sont armés de pistolets et de mitraillettes. Quatre ou cinq d'entre eux se précipitent au premier étage et arrêtent sans ménagement les résistants qui attendaient leur chef. Par précaution, d'autres SS commencent à vérifier les papiers des patients dans la salle d'attente. On entend des bruits de bottes dans les escaliers tout proches. Et puis, une bousculade et des tirs. L'un des résistants s'est échappé. Finalement, tous les occupants de la maison sont arrêtés par les nazis. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, pense que Max est là, parmi les hommes arrêtés. Mais il ne sait pas encore lequel est le patron des résistants. Il saura bien faire parler ses prisonniers. Et s'il ne parle pas, il les fera taire pour toujours. Jean Moulin naît le 20 juin 1899 sous le soleil de Béziers. Son père est un authentique hussard noir de la Troisième République, un professeur d'histoire-géographie qui a les valeurs de son pays chevillées au corps. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. L'engagement d'Antoine-Émile Moulin ne s'arrête pas à la salle de classe où flotte la poussière de craie en blanc nuage devant le tableau noir. Il est également franc-maçon et se fait élire au Conseil général de l'Hérault alors que Jean est encore adolescent. Il appartient au Parti radical socialiste. L'ambiance de la maison familiale est donc très politisée, plutôt à gauche, mais aussi très patriote. Jean y passe une enfance heureuse. Il adore dessiner à ses heures perdues. D'ailleurs, il a un talent fou pour la caricature et l'aquarelle. Passionné de politique et républicain jusqu'au bout des ongles, Jean s'inscrit à 18 ans à l'Université de droit et de sciences politiques de Montpellier. Le lycéen moyen devient un étudiant brillant. Il est vite repéré comme un jeune talent de la vie politique française et grâce aux relations de son père, il rejoint le cabinet du préfet de l'Hérault. Il n'a pas 20 ans, il n'a pas fini ses études, mais Jean Moulin gagne déjà bien sa vie. Sur son temps libre, il commence à fréquenter la bourgeoisie bohème des artistes célèbres, comme s'il y avait d'un côté Jean Moulin, dessinateur mondain, et de l'autre, le serviteur dévoué à l'État. Mais ces jeunes années ne sont pas celles de l'insouciance parfaite. C'est encore la Première Guerre mondiale. L'étudiant fait son service militaire près de Metz. Il occupe plusieurs postes à l'arrière et l'armistice est signé juste avant son envoi sur les premières lignes du front. Jean Moulin reprend alors ses études. Il obtient sa licence de droit en 1921 et commence une fulgurante carrière dans l'administration. Vous me pardonnerez de ne pas détailler son CV, il y a vraiment trop de postes. Retenez seulement qu'il est le plus jeune sous-préfet de France. Il exerce dans plusieurs préfectures de province, mais aussi dans des ministères. Les années 1930 sont de belles années pour lui. Il fréquente notamment le peintre Max Jacob. Il vend même ses dessins sous le pseudonyme de Romanin et commence une collection d'art contemporain. C'est à cette époque qu'il se fait photographier au célèbre studio Harcourt. Prenez le temps d'aller voir cette photo que vous trouverez tout simplement sur sa page Wikipédia. Jean Moulin pose de trois quarts, tourné vers la droite. Ses cheveux noirs sont gominés vers l'arrière, selon la mode de l'époque. Ses traits sont pleins de rondeur, mais pas dénués de virilité. Je dois vous faire une confidence. Depuis l'enfance, j'ai toujours été frappée par la douceur qu'il y avait dans son regard. Et en même temps, il émane de lui quelque chose de solide et de déterminé. Il inspire la confiance. C'est aussi à cette époque, en 1936 pour être précise, que le Front populaire gagne les élections. L'union des gauches est au pouvoir malgré les poussées de l'extrême droite et la montée du fascisme dans les pays voisins. Jean Moulin est fondamentalement antifasciste et il est très mal à l'aise lorsque ses fonctions préfectorales l'obligent à rencontrer le fils de Benito Mussolini lors d'un meeting aérien. En 1937, à 38 ans, Jean Moulin devient le plus jeune préfet de France. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, il est en poste à Chartres, dans l'Eure-et-Loir. Le préfet estime qu'il a sa place sur le front. Il est persuadé d'être plus utile là-bas que dans un bureau. Mais ses plans pour partir en première ligne échouent à plusieurs reprises. Le ministère de l'Intérieur veut le garder à son poste. Le préfet s'emploie donc à prendre soin de sa population. Pendant que Jean Moulin trépigne dans son bureau, nous, on va faire un tour sur le champ de bataille. En mai 1940, la Wehrmacht lance une grande offensive en France qui se conclut par la percée de Sedan. Il s'ensuit ce que les historiens ont longtemps appelé la débâcle face à la blitzkrieg allemande, la guerre éclair. Ça frappe très fort, d'un coup, sur un point faible des lignes françaises, et pour faire simple, les Français battent en retraite. L'armée allemande avance, et à partir du 8 juin, les Français entament l'exode. Ils fuient les zones de guerre en encombrant les routes vers le sud. Deux jours plus tard, le gouvernement s'installe à Vichy et le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, qui devient ville ouverte. C'est exactement comme vous l'avez vu dans les films ou les documentaires. Les soldats allemands marchent en uniforme dans nos rues et accrochent les drapeaux à croix gammée sur nos monuments. Pour les civils qui sont encore là, c'est un mélange d'horreur et d'impuissance. C'est dans ce contexte de crise que le 16 juin, le maréchal Pétain, perçu alors comme un héros de la Première Guerre mondiale, est choisi comme président du Conseil. Sous la Troisième République, il est le chef du gouvernement et dans les faits, il a plus de pouvoir que le président de la République dont on disait qu'il était là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Parallèlement, le général Charles de Gaulle est sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale depuis le 6 juin 1940. Son rôle est de coordonner la défense française avec celle de nos alliés anglais. Trois jours plus tard, il rencontre Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni. Le 16 juin, alors que Pétain est en train de préparer une demande d'armistice, de Gaulle décide de s'installer en Angleterre. Pour lui, la guerre n'est pas finie. Le lendemain, le maréchal Pétain annonce aux Français qu'il va signer l'armistice. Et le 18 juin, depuis Londres, Charles de Gaulle fait son appel sur les ondes. C'est le début de la France libre, le régime de la résistance du général, dont l'emblème est la croix de Lorraine. Nous voilà de retour dans le bureau de Jean Moulin à Chartres. Mais en ce 18 juin, son bureau est probablement vide. Enfin, pour être plus exact, il y a certainement des Allemands dedans. Jean Moulin, lui, est détenu depuis la veille et passé à tabac par les Allemands parce qu'il refuse de signer un document qui accuse les tirailleurs sénégalais d'exactions qu'ils n'ont pas commises. Les nazis, par racisme bien sûr, détestent les tirailleurs sénégalais et sont prêts à tout pour les faire passer pour des violeurs et des assassins. Mais Jean Moulin tient bon. Il parvient même à écrire une lettre à ses parents pour les prévenir que s'ils venaient à dire quelque chose de contraire à l'honneur, c'est que les Allemands auront menti à son sujet. Pour échapper aux nazis, le préfet tente de se suicider avec un éclat de verre en se tranchant la gorge. Il échoue. Quelques jours plus tard, il est réintégré dans ses fonctions. Il existe une photo où il pose à côté d'un SS dans les jardins de sa préfecture de Chartres. Il porte un foulard serré autour du cou pour cacher ses blessures. Depuis l'armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en deux. La moitié nord et la côte atlantique sont occupées par les Allemands. La zone sud, celle qui dépend du gouvernement de Vichy, sera la zone libre jusqu'en 1942. À l'été 1940, peu après sa première rencontre avec les nazis, Jean Moulin doit se rendre à Vichy pour prêter allégeance au maréchal Pétain et à son régime. La salle est remplie de préfets. Parmi eux, il y a un homme qui bat son record du plus jeune préfet de France. Il s'appelle René Bousquet et il a 31 ans. Il sera l'un des serviteurs les plus zélés de Vichy. Jean Moulin, quant à lui, est déjà surveillé par les services de renseignement de Pétain. Tout le monde a compris qu'il ne prendrait pas le même chemin que Bousquet. Certes, il est un agent de valeur, mais il a gardé ses idéaux de la Troisième République. Il est donc révoqué en novembre 1940. C'est le moment pour lui de rejoindre l'armée des ombres, la résistance. Mais Jean Moulin ne veut pas être un pion dans un mouvement nébuleux. Il a conscience qu'on ne peut pas libérer la France par une série de petites actions. Il se décide donc à aller à Londres pour rencontrer le général de Gaulle. Muni d'un faux passeport et d'un visa, il transite par l'Espagne et le Portugal pour allier l'Angleterre. Le 25 octobre 1941, il rencontre de Gaulle. Les deux hommes se plaisent tout de suite. La teneur exacte de leur entretien n'est pas connue, mais il y a des détails que l'on connaît avec certitude. Moulin veut être certain que de Gaulle rétablira la République, sans quoi il refusera de l'aider. Une fois rassuré, l'ancien préfet fait un état des lieux de la résistance en France et de ses besoins en armes et en argent. C'est là que De Gaulle va lui confier l'une des missions les plus importantes de l'histoire de la France au XXe siècle, créer l'union de toutes les résistances et les organiser militairement en une armée secrète dirigée par le général de Lestrin. C'est une mission très ambitieuse et complexe que Jean Moulin accepte. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il est parachuté en Provence. Son pseudonyme dans la résistance est désormais Rex, ou Max. Rex, en latin, ça veut dire roi. Max vient de Maximus, qui signifie le plus grand. C'est dire si Jean Moulin a une haute opinion de sa mission et de son rôle dans l'organisation de la résistance. Mais il va vite découvrir que les résistants ne sont pas à la recherche d'un chef.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Jean Moulin, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.